Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. En cette mi-mai, de nombreuses saisons de concerts ont baissé le rideau, quelques-unes ayant même déjà annoncé leur programmation 2025-2026. Bientôt va commencer la saison des festivals d'été et il ne reste plus guère d'ici là que quelques concerts de l'Orchestre National du Capitole et deux productions d'opéra et quelques récitals et concerts au Théâtre du Capitole. Tout ça pour dire qu'il y a quand même encore de belles choses à entendre et à voir d'ici les vacances d'été. Nous allons vous les présenter avec ceux qui ont une nouvelle fois accepté de participer à cette émission. Je salue Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et je salue Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse. Il est également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Nous allons revenir dans l'immédiat sur l'actualité musicale des deux dernières semaines. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Robert, bienvenue Serge, ravi de vous retrouver tous les deux pour cette émission que nous allons commencer en revenant sur un concert qui a eu lieu il y a pile deux semaines. Bertrand Chamaillou s'est en effet produit à la Halle au Grain le mardi 29 avril et ce à l'invitation de la saison des grands interprètes. Cette soirée était évidemment très attendue, comme à chaque fois que l'enfant du pays donne un récital à Toulouse, sa ville natale. Vous y avez assisté, Serge, et vous allez pouvoir nous rappeler quel programme a joué le pianiste toulousain devant une salle comble, mais ça, on pouvait s'y attendre.
On pouvait s'y attendre, voilà quelqu'un qui est prophète en son pays, on peut dire.
Oui, et c'est pas si courant.
C'est pas si courant, donc il faut le souligner. Il a été accueilli déjà avec une salve d'applaudissements qui montrait que le public était ravi de le revoir. Et il a présenté un programme d'une exigence musicale et virtuose impressionnante. Il faut savoir que Bertrand Chamaillou est à l'aise dans tous les types de musique, que ce soit dans la période baroque, à la plus actuelle des productions contemporaines, hein, puisqu'on l'a vu dans des pièces d'une difficulté, des pièces très récentes. Et puis, n'oublions pas qu'il aime les défis, puisque en 2011, dans le 32e festival de piano jacobin, il n'avait pas hésité à jouer dans la même journée l'intégrale des 3 années de pèlerinage de Franz Liszt, ce qui est tout de même une performance rare.
Et oui, parce que c'est non seulement un virtuose du piano, mais on pourrait dire que c'est un athlète du piano.
Oui, oui, mais un profond musicien, c'est ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le programme qu'il présentait développait des pièces d'une virtuosité incroyable, mais une virtuosité au service de la musique. Ça n'était pas gratuit et simplement technique, donc formidable. Alors, ce n'est pas étonnant, le cœur du programme était occupé par des pièces de Maurice Ravel, évidemment, 150e anniversaire de la naissance. Bon, n'oublions pas qu'il a quand même enregistré en 2016 l'intégrale des pièces pour piano seul de Ravel, qu'il vient de sortir un nouveau disque, Ravel, qui s'appelle Fragments, et dans lequel il joue des pièces qui ne figuraient pas à l'intégrale, puisque ce sont des transcriptions de pièces pour orchestre, soit par Ravel, soit par Chamaillou lui-même, et des pièces de compositeurs contemporains en hommage à Ravel.
Donc voilà. N'oublions pas de rappeler non plus qu'il est directeur artistique du Festival Ravel
exactement.
À Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, depuis quelques années.
Tout de même.
Et
oui,
quel festival.
Oui, oui,
festival.
Mais lui et Ravel, il y a des affinités incroyables. Hein. Et alors là, donc, le cœur du concert était consacré à Maurice Ravel, et c'était encadré à la fois avant et après par des pièces qui ont inspiré Ravel, auquel faisait référence Ravel lui-même. Hein. Ainsi, la première pièce qu'il a jouée, c'est la deuxième légende, Saint-François de Paul marchant sur les eaux, de Franz Liszt. Alors, une pièce évidemment très brillante, mais avec une ferveur incroyable, un déferlement liquide phénoménal qu'il a joué magnifiquement. Et ensuite, alors, le chœur Ravel, donc, comprenait avant l'entracte Les Miroirs, l'intégrale des pièces des Miroirs, et après le fameux Gaspard de la Nuit, ce qui n'est pas non plus une pièce de grande facilité.
Pas une mince affaire.
Voilà, exactement. Après cette pièce de Franz Liszt, il a attaqué donc Les Miroirs de Ravel avec, je vous les rappelle, Noctuelle, avec cette espèce de vibration lumineuse, La Vallée des Cloches, très poétique, et puis Les Oiseaux Tristes, d'une finesse incroyable, et Une barque sur l'océan, avec vraiment la houle qui envahit le piano, et puis la belle pièce brillante, Alborada del Gracioso, que l'on entend le plus souvent à l'orchestre. Là, il l'a joué avec une verve incroyable, donc ça a été magnifique. Et donc, en deuxième partie, il a attaqué le Gaspard de la Nuit, composé sur les poèmes d'Aloysius Bertrand, avec probablement la partition la plus exigeante de toute l'œuvre de Ravel, il faut le dire, hein, avec d'abord Ondine, avec là de nouveau l'évocation de l'élément liquide, décidément
oui,
c'était...
Qui était très présent dans ce
programme. Ah oui, très présent dans tout le récital, avec le gibet, sombre méditation, un peu macabre même, donc, et suivi du presque injouable Scarbo. Ravel lui-même avait déclaré qu'il voulait que ce soit plus difficile que la pièce de Balakirev, Islamé, que d'ailleurs Bertrand Chamaillot a joué en fin de récital.
En miroir, si on peut dire.
Oui, en quelque sorte. Oui. Bravo. Hein. Fabuleux. Et là, on peut dire qu'il s'était fixé le défi de dépasser la virtuosité redoutable que Ravel a introduite ici. Et donc, avec une grande finesse dans les passages de réflexion et de méditation. Mais alors, le Scarbo, c'était ahurissant, hein, à dresser ses cheveux sur la tête. Hein. C'était incroyable comme il a joué ça.
C'est un morceau diabolique. Hein.
Diabolique. C'est un personnage extraordinaire, hein, ce Scarbo, là, cette espèce de monstre impressionnant. Alors, il a eu là déjà un véritable triomphe, hein, avec des gens debout qui applaudissaient déjà pour Scarbo. Ensuite, eh bien, il est passé à Balakirev, avec tout d'abord une pièce très lumineuse, c'est une transcription pour piano de Balakirev de la pièce L'Alouette de Glinka. À l'origine, donc, c'est un chant populaire, hein, très léger, très agréable, très beau. Et enfin, il a terminé par une berceuse de Balakirev, là, un petit instant de repos. Puis ensuite, la mazurka numéro 2, qui est déjà très virtuose. Et enfin, Islamé, qui est qualifié de fantaisie orientale par le compositeur. Alors là, un feu d'artifice de couleurs et de rythme, alors qu'il a sidéré la salle entière qui s'est levée pour saluer cette prise de risque, en quelque sorte. Hein. Vraiment, ça a été impressionnant. Et là, il a été rappelé de multiples fois, bien sûr, et il est revenu, il a pris la parole un peu. Il a voulu témoigner, d'une part, de sa joie de se retrouver dans sa ville, bien sûr, on le savait. Et puis, il a voulu évoquer la mémoire du grand pianiste Vlado Perlmutter. Je rappelle, Perlmutter est mort en 2002, il avait 98 ans. Hein. Et il a signalé que c'est Vlado Perlmutter qui lui a transmis l'esprit de Ravel avec lequel il a travaillé dans sa jeunesse, Vlado, donc Perlmutter. Et alors, il a joué un hommage à Perlmutter, et il a joué Jeu d'eau de Ravel, encore une fois, comme pour boucler la boucle des pièces de Ravel.
Oui, Jeu d'eau, alors j'avais interviewé Bertrand Chamaillot il y a quelques années, lorsqu'il s'était produit au festival de Rocamadour, et il m'avait expliqué que Jeu d'eau avait été la première partition qu'il avait eue dans les mains lorsqu'il avait, je crois, une dizaine d'années.
Ouais.
Et c'est là, sans doute, qu'a commencé son amour pour Ravel. Filiation, mais qui, d'ailleurs, s'est faite à travers Vlado Perlmutter, cette rencontre.
Exactement. Oui.
Voilà. Et donc, c'est, vraiment, effectivement, on peut dire que la boucle était bouclée.
Ah oui, exactement. Oui. Mais un beau moment, hein, vraiment. Et ça a été très, très, très apprécié par le public.
Bertrand Chamaillot a donc joué Jeu d'eau de Maurice Ravel en bis. Et comme c'est une pièce très chère à son cœur depuis l'enfance, je vous propose d'écouter le pianiste toulousain dans la version qu'il en a enregistrée lors de son intégrale Ravel pour piano seul en 2016. Thank you. Jeu d'eau de Maurice Ravel, un extrait de l'intégrale Ravel pour piano seul, enregistré par Bertrand Chamahut en 2016. C'était d'ailleurs à Saint-Pierre-des-Cuisines. Notez que le prochain et dernier concert de la saison 24-25 des grands interprètes est programmé le mercredi 28 mai à 20h à la Halle au Grain avec la Staatskapelle de Dresde sous la direction d'Otto Gansokiev et avec la violoncelliste Sol Gabetta, la grande amie de Bertrand Chamahut. Là aussi, la boucle est bouclée, Serge.
Oui, oui, ce sont des amis de, très jeunes. Ils ont fait leurs études ensemble.
Oui, oui, tout à fait. Je vous parle en introduction des saisons de concerts qui sont terminées pour la plupart d'entre elles. C'est le cas notamment de Toulouse Guitare, dont le dernier rendez-vous s'est tenu le dimanche 4 mai à la Chapelle des Carmélites, avec le récital du guitariste tchèque Pavel Steidl, un grand musicien qui se produisait pour la première fois dans la Ville Rose, et que vous avez découvert en même temps que le public, Serge.
Oui.
Mais avant son concert, selon la tradition instaurée par Toulouse Guitare, il y a eu une première partie donnée par un jeune guitariste que je vais vous laisser le soin de nous présenter. Il s'appelle Victor Meynier.
Voilà, c'est un jeune guitariste de 22 ans qui suit des cours à l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts de Toulouse, où il étudie d'ailleurs auprès de Benoît Albert, Rémi Jousselme et Thibaut Garcia.
Tiens donc.
Donc, rien d'étonnant. Et donc, il a présenté un programme musical dans un ordre chronologique. Il l'a dit et il y tenait. Avec tout d'abord une œuvre de John Dowland, donc musique de la Renaissance, hein, très belle, très intéressante, très fine. Et puis du Bach avec une œuvre importante, puisque c'est l'andante de la sonate pour violon BWV 1003 de Bach. Donc après le raffinement de Dowland, c'était l'espèce de musique d'éternité de Bach. Et enfin, il a exploité, avec beaucoup de talent, je dois dire, l'écriture polyphonique des variations à travers les siècles, œuvre que je ne connaissais pas, de Castelnuovo Tedesco, bon, grand compositeur pour la guitare. Et donc, ça a été vraiment intéressant. Et ce qui m'a plu dans son jeu, c'est qu'il a poussé devant, non pas la virtuosité, mais la finesse, l'émotion, la réflexion. Et donc, pour un jeune homme de 22 ans, je trouve que ça a été un très beau moment que nous avons passé avec lui. Voilà. Et puis ensuite, donc est arrivé celui que l'on ne connaissait pas encore à Toulouse en direct, c'est Pavel Steidl, qui est né en République tchèque, puis ensuite a émigré aux Pays-Bas. Et il a vraiment créé, on peut le dire, son propre style, essentiellement lié au répertoire du 19e siècle.
Ouais, il joue sur une guitare romantique d'ailleurs.
Il joue une guitare romantique avec, qui a une sonorité très profonde, très belle. Et il a joué des pièces très variées, à commencer par du Fernando Sor. Donc il a souligné un peu l'élégance de l'écriture de Fernando Sor. Et puis ensuite, des pièces d'un compositeur que pour ma part je ne connaissais pas, qui s'appelle Johann Kaspar Merz. Et ça s'appelait Bardenklänge, ce qui signifie à peu près en allemand les plaintes du barde.
C'est joli comme titre.
Oui, c'est très joli, n'est-ce pas? Alors là, c'était vraiment une pièce pleine d'énergie dans laquelle il a développé une virtuosité des couleurs qui est impressionnante. Je crois que sa guitare y est pour beaucoup, mais enfin, c'est surtout son jeu qui était important ici. Un bon moment, une belle découverte. Tout le reste du récital, hein, c'est-à-dire des œuvres de Carulli, Paganini et un certain Napoléon Coste. Alors, ce sont des pièces qui favorisent l'aspect bel canto du grand répertoire italien où la guitare chante en quelque sorte. Hein. Et donc, il a d'abord joué trois andantes de Ferdinando Carulli. C'est vraiment le chant au premier plan, avec quelques effets comiques. Alors, c'est amusant parce qu'il faisait même des effets comiques avec son visage. Il en rajoutait sur le jeu de guitare. Et donc, ensuite, sonate, caprice, qui alterne dans une sorte d'exaltation, encore une fois, du chant, et une fantaisie, surtout, de l'écriture, avec des pièces donc de Paganini transcrites pour guitare, hein, avec une guitare qui semble imiter toutes les sonorités possibles, du clavecin au piano. C'était vraiment l'imagination qui était au pouvoir, en quelque sorte, ici. Et donc, il a été très longuement acclamé, et il a offert un bis dans la même veine, un menuetto de Paganini, toujours, qui prolongeait, en quelque sorte, l'atmosphère très heureuse, très souriante de cette fin d'après-midi, puisque c'était un dimanche qu'a eu lieu ce concert. Donc, un très beau moment pour conclure cette saison de Toulouse Guitare, finalement très révélatrice.
Qui a été encore magnifique.
Ah, magnifique.
Et avec très variée.
Très variée, avec des talents inattendues ou inconnues à découvrir.
Et puis les jeunes que l'on découvre
et
à chaque
les
fois.
Jeunes.
Ça, ou qu'on redécouvre pour certains.
Il faut souligner quand même l'importance de cette initiative. Hein. D'offrir aux jeunes qui sont en cours d'études l'occasion de se confronter au public, de se présenter au public, ça c'est vraiment excellent.
Nous allons avoir le plaisir de réentendre la guitare de Pavel Steidel dans cette émission. Il joue ici le menuet en ré majeur de Fernando Sor, l'un des compositeurs au programme de son concert du 4 mai à la chapelle des Carmélites. De Fernando Sor, joué par Pavel Steidel, qui a donc donné le dernier concert de la saison 24-25 de Toulouse Guitare, dimanche 4 mai à la chapelle des Carmélites. Le programme de la saison prochaine devrait être dévoilé d'ici la fin du mois de juin par Thibaut Garcia et ses parents. Nous nous en ferons l'écho, bien sûr, dans cette émission, dès que nous aurons des informations sur cette saison 25-26. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale avant de retrouver Serge Ozy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et le grand événement de cet agenda et des jours à venir, c'est le Vaisseau Fantôme au Théâtre du Capitole du 16 au 27 mai. 6 représentations sont prévues pour cette nouvelle production du célèbre opéra de Richard Wagner qui va être mise en scène par Michel Faux. Robert Pénavert va nous la présenter, mais avant cela, comme le veut la coutume, nous allons faire un peu d'histoire. Vous savez que Robert est la mémoire vivante de l'opéra à Toulouse. Alors, quelle est l'histoire du Vaisseau Fantôme au Capitole? J'ai l'impression que c'est une œuvre qui n'y a pas été donnée si souvent qu'on pourrait le croire, Robert.
Non, alors effectivement, je n'étais pas à la création à Toulouse de l'œuvre.
Il s'en est fallu de peu.
Non, parce que vous parlez mémoire vivante, mais j'ai des limites, hein, parce que c'était en février 1894.
Alors, je disais qu'il s'en est fallu de peu, j'avais raison. Hein,
oui.
Vous y étiez par contre.
Oh là là. Tu vois, tu moques de moi, résultat.
Oui, voilà. Exactement.
Bon, donc c'est en février 1894 que le Vaisseau Fantôme a remonté la Garonne pour la première fois.
Un an après la création française, parce que c'était à Lille l'année d'avant, en 1893.
Hein. Tout à fait. Et l'accueil, semblerait-il, d'après ce que j'ai pu consulter, a été extrêmement moyen. Alors évidemment, c'était chanté en français. Hein.
Oui.
C'était la troupe qui chantait ça. Bon, alors voilà. Cela étant, bon, ben, malgré tout, en plein conflit contre l'Allemagne, faut-il le souligner, hein, en 1943, l'œuvre est à nouveau reprise au Théâtre du Capitole, toujours en français. Et il faudra attendre 1956 pour que désormais ce soit dans la langue de Goethe que ce célébrissime opéra fasse son entrée au Théâtre du Capitole, donc en allemand. Et alors, c'était en 1956, et c'était avec deux clés de fable absolument somptueuses. Dans Dalland, c'était Ludwig Weber.
Ouh là là, une grande basse, hein.
Comme tu dis. Et dans l'hollandais, c'était un grand baryton basse, Otto Wiener, qui a été un Wotan absolument extraordinaire.
Des grands chanteurs à Bayreuth, hein.
Ah ben absolument, oui. Il faut dire qu'à cette époque-là, celui qu'on appelait le Père Isard, qui était donc le directeur du Capitole, Louis Isard, et qui a été un chanteur wagnérien, puisqu'il il a chanté, oui, il ne chantait pas Siegfried, hein, mais il chantait plutôt Mime.
Voilà, oui.
C'était plutôt ça, mais il n'empêche que. Et donc, il adorait surtout le répertoire wagnérien. Et il y avait également un maire à Toulouse, je pense, qui s'appelait M. Badiou.
Raymond Badiou.
Voilà,
ah, oui.
qui
le
adorait,
père du philosophe.
Qui adorait aussi l'opéra. Et c'était une époque dont, je rappelle, c'était après la guerre, beaucoup de théâtres allemands étaient fermés et ces grands chanteurs allemands
venaient chanter en France.
Mais pour chanter, bah, ils venaient en France. Et voilà pourquoi au Théâtre du Capitole, on a eu, enfin, tu te souviens, Serge,
Ludwig Zuthaus, Martha Mödel.
Martha Mödel.
Ah oui, oui, oui.
Voilà,
grand chanteur de l'époque. Hein.
Voilà, t'as pas cité Gertrude Comprendel, mais moi je le fais.
Oh là là.
Voilà. Donc 1956. Le Hollandais volant, Der Fliegende Holländer, fait sa première entrée en allemand au Théâtre du Capitole. Et il faudra ensuite attendre la saison 70-71 pour retrouver le vaisseau fantôme avec une magnifique distribution. Serge, tu dois t'en souvenir, le Hollandais, c'était Jeff Vermesch.
Oui, absolument. Oui.
Voilà. Dalland, c'était Hans Agenau. Et puis alors, petite nostalgie douloureuse. Senta, c'était une jeune cantatrice qui s'appelait Simone Mangelsdorf.
Oui, absolument.
Cette pauvre dame est décédée 2 ans après. Elle avait à peine 42 ans. Elle était à l'orée d'une carrière absolument extraordinaire.
Absolument.
Voilà.
Grande
Donc,
voix.
Ensuite, il faudra attendre quasiment 20 ans de plus, en 1989, pour que Michel Plasson dirige en version concert à la Lohengrin. À la Lohengrin. Ce vaisseau fantôme avec un plateau aussi là, vertigineux, je le rappelle. Hein, le Hollandais, c'était Hartmut Welker.
Ah oui, oui.
Senta Lisbeth Baslev, qui le chante à Bayreuth. Hein. Et alors, un Eric m'a tombé par terre, Eric. Je parle du ténor.
Moi, je suis toujours assis.
Ouais, voilà.
Je ne pas tombé par terre.
Puisque Teriendor, c'était un grand, grand ténor mozartien, c'était Wislaw Hoffmann.
Ah oui, oui, oui. Oh là là. Wislaw Hoffmann, célèbre, un magnifique ténor. Hein.
Et puis Dalland, c'était Peter Meven. Bon, enfin, il y avait de quoi.
Non, mais il y a toujours eu de très grands chanteurs et de très grandes chanteuses pour les distributions de
Et puis après, il faudra attendre la saison 92-93 à nouveau Théâtre du Capitole, dans une production de Pat Almen, avec un Hollandais légendaire, évidemment. C'est le cas de le dire, puisque c'était José Van Damme. Voilà.
Wow.
C'était l'époque où...
On le voyait était... assez souvent à Toulouse, d'ailleurs.
Oui, 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 oui. On l'avait vu dans Les Contes d'Hoffmann à cette époque-là. On l'avait également vu dans Le Don Quichotte de Massenet. Et donc, mais en fait, cette chronologie, quand même, vous avez pu noter que, effectivement, comme vous disiez très justement, Eric, fait que par rapport, par exemple, à des reprises de La Valkyrie, qui est quasiment tous les 6 ou 7 ans, on donne une Valkyrie à Toulouse... Voilà, il y a aussi un opéra mal aimé, ça ne vous a pas échappé, c'est Lohengrin.
Oui, et oui.
Qu'on n'a plus revu depuis pas mal d'années. Voilà, j'espère que...
Alors, toujours est-il que là, il y a 33 ans donc, qu'on n'a pas eu le vaisseau fantôme à Toulouse.
Oui, oui.
Et rien pour ça, c'est un événement.
Alors, c'est un peu bizarre parce que quand même, c'est quand même plus facile à monter que les maîtres chanteurs, Parsifal.
Non, ça peut paraître étonnant.
Et ça peut paraître étonnant, mais bon.
Et puis bon, la légende du Hollandais volant, quand même, ça parle aux gens, il me semble.
Oui, oui, oui. Oui, oui, donc, bah oui, alors d'autant plus, comme me disait Michel Faul dans un dernier entretien, le Hollandais volant, c'est Pirates des Caraïbes. Hein.
Oui,
c'est pas autre chose.
Oui. Bon, on peut le voir comme ça. Oui, c'est une légende de pirates. Hein.
Oui, c'est une histoire de pirates fantômes. Hein, oui. Voilà. Et dans Pirates des Caraïbes, il y a une scène, moi quand je l'ai vue en particulier, c'est le dernier opus de Pirates des Caraïbes, quand le vaisseau fantôme, c'est du cinéma évidemment, mais sort de l'eau. cette espèce de squelette de vaisseau avec les squelettes à l'intérieur qui bougent.
Avec les marins fantômes.
Comme dans
le vaisseau fantôme de Wagner. Alors, ce qu'on peut dire concernant l'actuelle production, on va rentrer dans le détail, mais pas tout de suite, c'est que c'est déjà complet ou presque. Hein,
oui.
Les 6 représentations.
Oui, oui, oui.
Il reste quelques places tout de même.
Il en reste quelques-unes, mais précipitez-vous.
Non, mais c'est important de le dire, voilà, que les gens ne perdent pas de temps. S'ils ont du mal à se décider, c'est le moment.
Voilà.
Avant de se plonger dans la distribution de cette production, mais pour se mettre dans l'ambiance, je propose que nous écoutions auparavant l'un des chœurs du vaisseau fantôme. C'est le chœur des fileuses au début de l'acte 2. Des fileuses au début de l'acte 2 du vaisseau fantôme. On en arrive donc à cette nouvelle production au Capitole et tout d'abord à sa distribution. Quel chanteur allons-nous découvrir dans les rôles principaux, Robert ? On connaît déjà celui qui va prendre le rôle du Hollandais volant pour la première fois et on connaissait déjà aussi celle qui devait prendre le rôle de Senta. Malheureusement, elle s'est décommandée et elle a dû être remplacée.
Mais effectivement, c'est un peu... un plateau familial. Vous savez que Christophe Gristy a, depuis qu'il
oui,
est...
il parle de famille, lui. Hein.
Il parle pas de troupe.
Parce non, il parle de famille.
Il n'a pas...
la famille,
en fait, juridiquement, il ne peut pas parler de troupe, bien sûr. Mais il parle de famille.
Ouais, hein. Ouais.
Et en fait, c'est encore plus sympathique. Hein. Mais voilà, donc, il s'est constitué une famille. Voilà, donc... les chanteurs aiment bien revenir parce qu'ils se retrouvent tous ensemble, ils sont heureux, ils se connaissent, ils ont des choses, des souvenirs déjà. Enfin, et ça crée une ambiance quand même très, très spécifique.
Et je pense que le public est sensible à cette ambiance. Ils viennent voir les gens de la famille un peu.
Oui, et certainement.
Il y a ça.
Certainement. Alors donc, nous allons retrouver Alexei Isaev. Ça tombe bien, décidément, ça l'était destiné. Parce que lorsque nous l'avons découvert, c'était sous l'eau.
Oui,
puisqu'il chantait Vodnik dans Roussalka. Et souvenez-vous, c'était une production...
Une belle piscine sur scène.
Et, il plongeait.
Il y avait un lac sur scène.
Oui, lui, il plongeait.
Et quand
il sortait
des
eaux.
Quand on l'a vu plonger, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et il remontait, et puis il chantait. Parfois, il n'y avait que la tête qui dépassait de l'eau.
Une performance.
C'était une performance incroyable.
Le terme.
Alors, bon, cela dit... pour avoir discuté avec lui, c'est un excellent nageur
oui.
et un très grand sportif.
Oui, on voyait qu'il était à l'aise dans l'eau.
Non, mais il n'empêche qu'à cette occasion-là, Christophe Grissi nous a fait découvrir certainement le grand baryton basse déjà d'aujourd'hui, encore plus de demain. Puisque je sais qu'à Londres, par exemple, Antonio Papano
est
devenu fou et il engage à tour de bras Alexey Isaev.
En tout cas, il aime bien les opéras aquatiques.
Oui, mais voilà. Alors donc, on va le retrouver dans une prise de rôle, comme vous disiez très justement, de celui du Hollande des volants. Et nous l'avons entendu il n'y a pas très longtemps, je vous rappelle, dans Nabucco.
Oui.
Voilà. Donc,
non, ça, c'est la valeur sûre.
Ça, c'est du solide. Oui.
C'est du solide.
Alors, effectivement, l'autre grand rôle, c'est celui de Senta. Et c'était Marie-Aline Henry qui était castée, celle qui était venue chanter lors des dernières reprises de Yenoufa, où elle avait été magnifique.
Ah, absolument.
Et franchement, je me faisais un grand plaisir de l'entendre à cette reprise de rôle. Et puis, voilà. Pour des raisons personnelles que j'ignore, qui ne me regardent pas trop en plus. Elle est partie, elle a été remplacée. Vous savez, Christophe Grissi,
son
jeune âge, ne se laisse pas émouvoir pour autant. Il a eu tout fait d'engager un immense soprano wagnérien. C'est une Suédoise qui s'appelle Ingela Brinberg et c'est une étoile incontestée des grands sopranos dramatiques, c'est-à-dire qu'on la retrouve très souvent dans tout l'univers wagnérien et plus particulièrement tétralogique, mais également dans Elektra et dans Turandot, qui n'est pas un univers wagnérien, mais enfin, on sait très bien que...
De petits rôles légers, quoi.
Voilà. Mais en fait, elle chante que ça. Alors, évidemment, elle n'a pas été castée comme ça au dernier moment, le doigt en l'air. Elle a déjà chanté 5 productions différentes de cet opéra, dont elle en connaît tout à fait la psychanalyse du personnage.
C'est compliqué pour elle de se mettre dans le personnage.
Quand dans la partition, qu'elle ouvre, voilà. Et nous allons faire une découverte, puisque c'est la première fois qu'elle...
Et oui, ça sera une première pour elle.
Qu'elle chante à Toulouse.
Au Capitole.
Voilà. C'est la seule interprète qui ne fait pas de prise de rôle. Après, dans les autres prises de rôle, alors un ténor bien connu, un ténor né aux Canaries, c'est un Canarien, il est né à Tenerife, un Canarien comme un autre grand ténor, très célèbre, Alfredo Kraus.
Oui.
Et lui s'appelle Airam Hernandez. Alors, nous le connaissons également, puisqu'il était sur notre scène il n'y a pas très longtemps. Il était l'un des deux polyones. Et puis, il a également chanté lors des dernières reprises de Boris Godounov. Il faisait le faux Dimitri, etc. etc.
Oui.
Et l'année prochaine, nous le retrouvons dans Carmen et dans la création contemporaine de la Passagère.
Lui, il fait partie de la famille.
Ah, il fait partie de la famille.
Assez
et donc, il chante Eric, qui est un très très joli rôle, un rôle très, très
Eric, c'est toujours un joli rôle,
intensément tragique et dramatique.
Et très lyrique, comme
très, très lyrique,
comme
chant, voilà, très, très émouvant. Il faut le souligner pour ceux qui auraient un peu peur d'aborder Wagner, parce qu'il y a des gens qui ont peur de Wagner. Mais c'est très certainement, juste avant Le Vaisseau Fantôme, Wagner a composé Rienzi. Rienzi est très clairement marqué par le style du grand opéra français de Meyerbeer, etc., etc. Mais il faut dire que c'est un tout jeune compositeur. Richard Wagner, à cette époque-là, n'a même pas 30 ans.
Non, il n'a pas 30 ans.
À quelques mois près, bien sûr. Mais il est encore
1942-43,
influencé. Il est encore influencé 1800. Par l'opéra italien, très clairement.
Oui.
Il n'empêche que dans cet opéra, on sent les prémices, elles s'entendent parfaitement du drame musical et des leitmotifs. Évidemment, l'opéra qui suivra, Tannhäuser, mettra beaucoup plus en avant la dramaturgie wagnérienne ainsi que le système musical wagnérien des leitmotifs. Donc c'est une œuvre pivot, c'est une œuvre hybride, certes, mais c'est une œuvre, moi, que je trouve extraordinaire, qui n'est pas très longue. Elle fait à peine 2 petites heures et demie. Alors, si on compare
au
Met Chanteur qui fait 5 heures, ça fait la moitié. Alors, dans le rôle de Marie, nous retrouvons l'une des dernières d'Agis, Eugénie Jauneau, qui chantera Marie. Et c'est un rôle aussi qu'on ne peut pas aborder de manière très légère parce que dramatiquement elle a quand même des responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Marie, c'est elle qui a chanté à Senta petite la légende du Hollandais.
Voilà.
C'est elle qui lui a mis ça dans la tête. Et depuis, Senta n'arrive plus à à s'en sortir. Donc Marie a un rôle quand même, un rôle souterrain dans cet opéra qui est loin d'être négligeable. Il y a un ténor que l'on connaît également très bien, qui a eu un prix d'ailleurs, un concours de chant de Toulouse, malheureusement pas un premier prix, alors qu'il le méritait largement par rapport à celui qui a eu le premier prix. Il s'appelle Valentin Thiel et il chantera Le Pilote. Voilà.
Il a un nom de ténor célèbre.
Ah oui, oui. Mais bon, ça n'a rien à voir, je lui ai demandé.
C'est pas la même famille. Non.
Non, il n'est pas de la famille. Et pour sa première venue à Toulouse, en fait, qui n'est pas sa première venue, une grande basse française qui s'appelle Jean Tedjen, et qui endossera le costume de Dalande pour la première fois. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il vient à Toulouse, mais enfin, comme il me disait, je considère que c'est la première fois. Parce qu'il est venu une première fois, c'était en 2001, il chantait un tout petit rôle, parce qu'il était dans la troupe de l'Académie d'Ambronay,
oui.
Lorsqu'ils sont venus chanter Cadmus et Hermione de Lully.
Oui.
Il m'a dit, alors vraiment, j'avais vraiment un tout petit rôle.
Ça compte pas.
Voilà, exactement. Ça compte pas. Mon entrée au tas du Capitole, c'est avec le costume de Dalland. Ouais. Et il est très, très heureux de...
Belle distribution.
De la distribution. Il m'a dit, j'espère bien évidemment que je reviendrai. Et je vous remercie beaucoup, Eric, d'avoir mis les chœurs en extrait, parce que c'est l'un des grands opéras.
Ah oui.
De Wagner en termes de phalange chorale. Bon, évidemment, dans Les Maîtres Chanteurs, il y a aussi beaucoup de chœurs. Dans Lohengrin, il y a beaucoup de chœurs.
Parsifal, oui.
Parsifal. Mais, quand même, il faut reconnaître dans Le Vaisseau.
Oui.
Et en plus, ils ont des rôles dramatiques.
Oui.
Pas que des rôles je serais tenté de dire, de peau de fleurs, quoi. Pardon. Mais, par exemple, ils ont
des interventions actives.
C'est ce que je veux dire. Bon,
mais très significante
au dernier acte, il ne faut pas oublier qu'il y a deux masses chorales d'hommes qui s'opposent.
Oui.
Les marins maudits et les marins terrestres, vivants. Donc ça, c'est très difficile. Je peux vous dire, ça fait près d'un an qu'ils travaillent là-dessus.
Oui,
pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de chanteurs du Capitole, des choristes, qui ne l'avaient jamais chanté.
Et oui, voilà.
Quant à Frank Berman, évidemment, j'en ai à le présenter.
Wagner, il va être plein dans son élément, là.
Voilà, il est là. Et les chanteurs l'adorent, parce que...
Et les musiciens aussi.
Les musiciens également, vous avez raison. Mais comme ils me disent, les chanteurs que j'ai eu la chance d'interviewer, ils me disent, voilà, mais là, on a un metteur en scène, qui est Michel Faux, on va y revenir si vous voulez, et un chef d'orchestre. Tous les deux, ils pensent exclusivement musique et partition.
Oui.
Oui.
Ils avancent main dans la main.
Ce qui peut les changer parfois de certains metteurs en scène contemporains que je ne citerai pas.
Alors oui, Michel Faux revient, c'est dansé sa quatrième production. En 2019, il avait fait Ariane à Naxos.
Oui.
En 2021, il a fait Electra et Wozzeck. Quel Wozzeck,
resté dans toutes les mémoires.
Souvenez-vous.
Souvenir magnifique.
Voilà. Et il revient évidemment dans le rêve de sa vie, Wagner. Depuis qu'il est tout petit, il rêve de monter Wagner. Son rêve, c'est le ring. Mais si ce n'est pas le ring, comme il me disait, peu importe. Un jour, je le monterai, si c'est écrit. Mais déjà que Christophe Christie me confie un Wagner, il considère, c'est drôle ce qu'il m'a dit, il considère que... Alors que, quand même, c'est un grand homme de théâtre, c'est un comédien qui... Bon, voilà, il va monter là prochainement à la Michaudière une pièce de Sacha Guitry. Bon, enfin, il en a fait des choses.
Grand homme de théâtre.
C'est un élève de Michel Bouquet. Bon, voilà, on a plus besoin de présenter Michel Faux. Eh bien, malgré tout, il me dit, pour moi, monter Wagner, c'est une consécration.
Bah, on dit que c'est l'art total, l'opéra de Wagner.
C'est
l'art total.
Parce qu'il me dit,
il y a pas
Wagner,
beaucoup d'artistes qui peuvent se revendiquer de l'art total.
J'ai commencé mes pèlerinages à Bayreuth, j'étais pas majeur encore.
Enfin, donc c'est presque un rêve de gosse quoi, pour lui.
Voilà, c'est un rêve de gosse. Et puis il me dit,
merci Christophe Christie.
J'ai vite compris que Wagner était un homme de théâtre.
Ben oui.
Et donc ça me convient parfaitement. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la partition, il s'est plongé dans la partition et il a étudié les didascalies de cette partition. Il a dit, moi, je veux affronter Wagner, je n'en ai pas peur. Pourquoi? Parce que je vais le respecter. Et donc, ce qu'a écrit Wagner, eh bien, ça va être sur scène, voilà,
oui.
Tout simplement.
Ça change aussi de certains metteurs en scène,
ça change, oui.
Et eux croient qu'il faut absolument distordre les œuvres telles que leurs auteurs les ont écrites, présentées.
scénographié. Bon,
on va pouvoir écouter un autre chœur du vaisseau fantôme, c'est le chœur des marins. Des marins du vaisseau fantôme de Richard Wagner, dont je rappelle que la nouvelle production mise en scène par Michel Faux est à découvrir au Théâtre du Capitole du 16 au 27 mai lors de 6 représentations. Il doit rester quelques places, mais il faut faire vite si vous voulez en avoir une. Pendant que nous y sommes, nous allons aussi vous présenter un récital donné au même endroit le vendredi 23 mai à 12h30. C'est d'ailleurs l'un des protagonistes de la distribution du vaisseau fantôme qui va s'y produire, le ténor espagnol Aram Hernandez, accompagné par une habituée de la scène du Capitole, la pianiste Anne Bozek. Quel programme propose-t-il, Robert ?
Alors, c'est un programme espagnol. On ne va pas tous les citer parce que c'est vraiment...
Oui, il y en a beaucoup.
Un énorme programme. Enfin, si on cite Joaquín Turina, Manuel Palau, Anton García Abril, Enrique Guimera, etc. etc.
Albéniz.
Puis il y aura des morceaux très connus, comme par exemple la canción de Cuna para dormir a un negrito. Parfois, on ne sait pas ce que c'est ça, mais on en connaît.
On connaît l'air.
On connaît la mélodie. Voilà. Donc, c'est l'occasion de l'entendre dans un autre répertoire. De ce qu'il a fait pour l'instant, hein. Et moi je pense que ça va être super intéressant. En plus, ces rencontres à midi et demi se font dans un cadre quasiment intime, même si c'est au Théâtre du Capitole, ça dure une heure. Bon, il y a des bis évidemment prévus, je ne les connais pas, sinon je ne vous le dirai pas.
Espagnol. Ouais.
Mais c'est pas sûr que ce soit espagnol d'ailleurs, mais bon, voilà.
C'est probable.
Puis on va l'entendre dans son arbre généalogique.
Oui, c'est ça.
ADN. C'est toujours intéressant, vous savez.
C'est sans doute même des airs qu'il a chanté avant de devenir un chanteur professionnel.
Là,
il chantait ça peut-être chez lui et dans sa famille.
Ce sont des passages obligés pour tous les chanteurs espagnols.
La grande tradition du chant en Espagne.
On va se régaler, j'en suis sûr.
En plus, accompagné par Anne Bozek, ça devrait donner très beau. Nous allons avoir le plaisir d'écouter Aram Hernandez dans une interprétation d'une des pièces qu'il chante le 23 mai au Capitole, Cantares de Joaquín Turina.
Oh!
Cantares de Joaquín Truña, chanté par Airam Hernandez, qui se produit donc avec la pianiste Anne Bozek vendredi 23 mai à 12h30 au Théâtre du Capitole, dans un programme d'air espagnol. Nous allons conclure cette partie agenda avec le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, qui a lieu ce jeudi 15 mai à 20h à la Halle aux Grains, avec un soliste invité et une chef invitée, Serge, qui sont les deux musiciens que nous accueillons jeudi à Toulouse.
Deux jeunes musiciens, on peut dire, puisque...
C'est une première pour les deux.
Ah oui, absolument. Marie Jacot, donc, qui va diriger l'orchestre, elle est née en 1990 à Paris, donc elle est
35 ans,
toute jeune. Elle a fait du piano, elle a même étudié le trombone, et elle occupe des postes, mais vraiment de premier plan, puisqu'elle est actuellement première chef invitée des Wiener Symphoniker, l'orchestre symphonique de Vienne, ce qui n'est pas rien. Et elle a occupé des postes importants en Allemagne, Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf, etc. Actuellement même, elle occupe le poste de chef d'orchestre principal du Théâtre Royal danois de Copenhague, et à partir de l'année prochaine, la saison prochaine, 26-27, elle sera chef musical de l'orchestre symphonique de la WDR,
la radio de
l'Allemagne de l'Ouest, hein, donc
à Cologne.
À Cologne, donc c'est tout de même important. Et elle dirigera à Toulouse une œuvre rarissime, hein, qui est la Sinfonietta en si majeur de Erich Wolfgang Korngold, une œuvre que Korngold a composée à l'âge de 15 ans, donc une œuvre de prime jeunesse, inspirée, il faut le dire, il l'avoue lui-même, par Gustav Mahler.
Et puis, elle est très romantique, cette Sinfonietta.
Très romantique, oui. Et puis il y aura comme soliste, là aussi, un jeune violoniste qui s'appelle Bohdan Lutz et qui est né en 2004 en Ukraine. Il a travaillé avec des gens que l'on connaît à Toulouse, Guillaume Chilem et Renaud Capuçon. Et à 17 ans, il a obtenu deux premiers grands prix, l'un au concours Carl Nielsen, l'autre à Hagstadt. Et puis, il a quand même remporté le prestigieux premier prix du concours Lontibault 2023, ce qui n'est pas rien. Vraiment un jeune, grand violoniste qui va venir diriger l'un des grands concertos romantiques, post-romantiques peut-être, pour violon et orchestre de Sibelius.
Des concertos pour violon les plus joués, les plus connus.
Un des grands concertos consistants, hein, un concerto long, hein, en trois mouvements habituels. Alors, j'ai découvert ce qu'un musicologue anglais disait, il s'appelle Donald Francis Tovey, il parlait du final, qui est incroyable, il a dit « il s'agit d'une polonaise pour ours polaire ». Donc on aura ces deux œuvres pour ce concert du 15 mai.
Je crois d'ailleurs que Bohdan Lutz a remporté le prix du concours Lontibault avec le concerto de Sibelius.
Exactement.
Le concerto
exactement,
de Sibelius. Donc c'est vous dire s'il connaît cette œuvre et si elle doit être un peu une œuvre fétiche pour lui.
Il est très travaillé.
Voici le célèbre premier mouvement Allegro Moderato du concerto pour violon de Sibelius dans une version interprétée par Bohdan Lutz.
Thank you.
Le premier mouvement allegro moderato du concerto pour violon de Sibelius dans une version avec Bohdan Lutz en soliste. L'autre œuvre au programme de ce concert, c'est la Sinfonietta de Korngold. Tout ça va être dirigé par Marie Jacot ce jeudi 15 mai à 20h à la Halle au Grain. La billetterie est en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Pas loin de Toulouse, je signale aussi le concert de la pianiste Anna Jbanova en duo avec l'accordéoniste Roman Jbanov, vendredi 16 mai à 20h30 à l'église Saint-Martin de Vigoulet-aux-Îles. C'est dans le cadre de la 4e édition du Printemps de Vigoulet-aux-Îles, un festival dédié au piano. Le programme de ces musiciens originaires de Russie qui sont frères et sœurs est intitulé « Voyage musical romanesque slave ». Et je rappelle enfin les 6 représentations du vaisseau fantôme au Théâtre du Capitole du 16 au 27 mai dans la mise en scène de Michel Faux avec la superbe distribution que nous avons présentée au cours de cette émission. Il doit rester quelques places, mais je vous conseille de faire vite si vous souhaitez assister à cette nouvelle production. La billetterie est en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy et Robert Pénavert pour leur aide précieuse et érudite dans l'animation de ce numéro. Je remercie également Jonathan Botello qui a assuré la réalisation aujourd'hui. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence comme d'habitude. Et je remercie bien sûr les fidèles et les nouveaux éditeurs de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.